Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté l'enquête sur l'assassinat en 2003 à Carpentras de Guy Pourriel, tué par un certain Éric Zagot, qui a prétendu l'avoir tué en raison d'une phrase qu'il avait prononcée 17 ans plus tôt, qui a été déclaré irresponsable par un premier psychiatre, puis responsable par un second, ce qui lui a valu d'être condamné en appel à 14 ans de réclusion criminelle. Et je débriefe cette histoire avec vous, maître Hélène Blanc du barreau d'Avignon. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous avez défendu à l'époque les intérêts de madame Michèle Pourriel, la femme de la victime. Quelle est la position de votre cliente avant le procès concernant Éric Zagot? Est-ce qu'elle veut qu'il soit absolument condamné ou est-ce qu'elle accepte l'hypothèse psychiatrique?
Non, elle voulait absolument une condamnation. Pour elle, il n'était pas fou. Elle était vraiment très choquée par ce qu'elle avait appris dans le cadre de l'enquête. Et elle était très choquée du comportement de ce jeune homme. Elle ne comprenait rien à ce qui s'était passé. Et pour elle, il fallait une sanction lourde.
Et vous, en tant que professionnel qui en a vu d'autres, comment vous appréhendez les choses au regard de cette hypothèse psychiatrique ?
Eh bien, moi, je pense que Éric Zagot disait la vérité. Il voulait laver l'humiliation. Et il faudrait interroger pas mal de psychiatres pour savoir les effets d'une humiliation. Parce que c'est souvent quelque chose qui ronge les gens. Et je pense qu'Éric Zagot a véritablement été rongé par cette menace lorsqu'il était jeune. Il faut dire aussi que Guy Pourriel ressemblait beaucoup au père Zagot et que le père Zagot avait pas mal malmené son fils. Il était sévère, il était dur et Éric Zagot avait eu une adolescence extrêmement difficile. Lorsqu'il tue Guy Pourriel, il est au bas de l'échelle, il est au fond du trou. Comme vous l'avez indiqué, il avait perdu sa femme, son enfant à cause du divorce. Il vivait chez sa grand-mère, il n'avait pas de métier sérieux et son père le méprisait. Et à l'époque où il a subi cette humiliation de la part de Guy Pourriel, il travaillait dans le bar de son père et il ne recevait aucune estime de la part de celui-ci. Et Guy Pourriel a eu le malheur de ressembler étrangement à Fernand Zagot. C'était aussi d'ailleurs un rugbyman. Et je pense qu'en tuant Guy Pourriel, Éric Zagot a aussi réglé les comptes avec son père. Mais ça n'est pas vraiment apparu. En tout cas, il ne l'a jamais dit. Lui a toujours dit « je voulais laver l'humiliation ».
Mais l'hypothèse psychiatrique, elle est là quand même, puisqu'on a deux psychiatres, qui disent deux choses différentes. Le premier dit que sur la base d'une psychose paranoïaque délirante, son discernement était aboli, et l'autre dit seulement altéré. Donc il n'y a pas de vérité en psychiatrie.
Il n'y a jamais de vérité en psychiatrie, jamais. Mais je pense que le deuxième expert était peut-être plus proche de la vérité. Ça n'était pas l'abolition du discernement, c'était juste une altération, à savoir que Éric Zagot souffrait de cette humiliation, mais il n'a pas su mesurer les effets de ce qu'il ressentait. Et il a dépassé, évidemment, ses intentions. Je pense que lorsqu'il dit « je ne voulais pas le tuer », c'est peut-être presque vrai. Mais laver l'humiliation, il fallait faire disparaître Guy Pourriel. Il ne faut pas oublier quand même qu'il avait d'abord essayé de le rencontrer, qu'ils avaient eu une discussion, qu'il avait demandé à Guy Pourriel de s'excuser. Et si Guy Pourriel s'était excusé, je pense qu'il ne serait pas mort. Mais bon, c'est vrai que tout ça semble ressortir de la folie. Éric Zagot était un être fragile, ça c'est certain. Et donc, je pense que l'altération de son discernement s'était fondée. L'abolition, ben peut-être pas. Peut-être que seule la deuxième expertise était bonne. Et d'ailleurs, les jurés de la cour d'assises de Nîmes ont suivi le deuxième expert.
Ouais. Quand même, vous dites qu'ils ne sont jamais d'accord, les psychiatres. Mais comme quand même, en l'occurrence, dans ce dossier, ils jouent un rôle clé. C'est quand même problématique d'avoir deux professionnels. Le premier étant professeur de psychiatrie. Le second étant simple médecin. Ils ne sont pas d'accord. Comment est-ce qu'on peut se baser sur des avis divergents comme ça?
Le problème, c'est que ces expertises psychiatriques se font en maison d'arrêt, dans des conditions très particulières et très rapides. Il y a peu de rendez-vous avec le coupable, enfin, le présumé coupable. Et c'est vrai qu'on peut, se poser la question de savoir comment un psychiatre arrive à se déterminer avec si peu de temps et aussi si peu de rémunération, il faut le dire aussi.
Ouais, c'est
donc,
mal payé.
Je ne sais pas comment les experts psychiatres travaillent, mais je dois dire qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et qui ne sont pas favorables à de bonnes conclusions, à mon avis.
Alors, on a donc deux verdicts. Le premier qui semble tenir compte du handicap psychiatrique, puisque les jurés le condamnent à 2 ans de réclusion criminelle plus un internement psychiatrique. Et puis le deuxième qui est radicalement différent, puisqu'il le condamne à 14 ans en appel. Pourquoi les deux procès ne se sont pas déroulés de la même manière? Il ne s'est pas comporté de la même manière?
Si, je pense qu'il était à peu près le même. Simplement, le président de la cour d'assises n'était pas le même. La première présidente d'Avignon, était convaincue de la folie et ne voulait pas le mettre en prison. Ceci étant, je crois qu'elle a prononcé un internement psychiatrique en outrepassant les droits que lui donnait le code pénal, mais peu importe. Elle ne voulait pas qu'il aille en prison. Et Éric Zago était absolument furieux. Et je me souviens très bien que lors de la première audience, il avait invectivé son propre avocat parce que son avocat voulait plaider la folie. C'était évident pour un avocat de la défense, il fallait tirer le client d'affaires, il ne fallait pas qu'il aille en prison. Et pendant l'audience, Éric Zago avait menacé son avocat en lui disant « Je vous avertis, ne plaidez pas la folie parce que ça ira très mal ». Et l'avocat qui assistait Éric Zago à ce moment-là, un des meilleurs avocats pénalistes d'Avignon d'ailleurs, a eu beaucoup de mal à dire ce qu'il avait envie de dire sans que Éric Zago le comprenne vraiment.
C'est difficile parfois de défendre un client, hein.
Ah là, c'était extrêmement difficile. D'ailleurs, en appel, il a changé d'avocat et je ne me rappelle plus qu'il a défendu à Nîmes, mais il a trouvé une oreille plus compatissante, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à Nîmes, on n'a plus plaidé la folie.
Ce qui est quand même très rare, Madame Blanche, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi jamais, c'est quelqu'un qui exige d'être condamné. Vous l'avez vu demander, ah oui. Exiger ça.
Absolument. Absolument, parce que s'il n'avait pas obtenu sa condamnation, l'humiliation n'aurait pas été lavée. Il fallait qu'il y ait un acte positif après son meurtre. Il fallait qu'on reconnaisse son humiliation, et seule une condamnation permettait de le reconnaître. Si on l'avait déclaré fou, il n'y avait pas de la reconnaissance de sa souffrance. Il était fou, donc incapable de réfléchir, incapable d'agir de sa propre volonté. Avec une condamnation, on a reconnu qu'il avait été humilié, en fait, c'est ça.
Oui, c'est ça, avec la condamnation, on reconnaît que son assassinat, enfin l'assassinat qu'il a perpétré, est rationnel, qu'il est dû à quelque chose de réel.
Absolument.
C'est la première fois que je vois ça. Vous avez déjà eu des clients qui refusent de plaider la folie, parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse. Il y a des clients qui demandent à leur avocat de plaider la folie, alors même qu'ils ne le sont pas fous.
Absolument. Et moi, je me souviens même, quand il est venu, il est arrivé à la cour d'assises de Nîmes en appel, il est arrivé avec les infirmiers, tout à fait jovial, il s'entendait très bien avec eux, il avait un comportement excellent, il n'était pas du tout... Il était bien, il ne présentait pas de caractère de folie du tout. Et je pense que les jurés ont compris à Nîmes ce qu'ils voulaient, ils ont tenu compte de l'altération, parce qu'il n'était pas... C'est pas une responsabilité totale, il y a une altération, c'est sa fragilité. Et la peine de 14 ans correspondait, je pense, à son crime.
Oui, c'est ça. Pour assassinat, il encourait perpétuité.
Il y avait préméditation, surtout. Il ne faut pas oublier qu'il a suivi, qu'il a surveillé le domicile de Guy Pourriel et de sa femme, qu'il a fait une première tentative, qu'il est revenu à la charge. Il a été acheté un revolver. Enfin, il y avait vraiment une préméditation qui a duré un moment.
Et dans votre mémoire de pénaliste, il encourait combien compte tenu de l'altération de son discernement? C'est pas la même peine, c'est pas perpète.
Ah ben, compte tenu de l'altération, je pense que la peine, elle est juste.
Oui.
Moi, je pense qu'elle était juste. D'ailleurs, il en était satisfait de ses 14 ans. Il est sorti de l'audience tout à fait content, dans mon souvenir.
On a un mobile officiel. Alors donc, je voudrais qu'on revienne dessus. C'est donc cette phrase prononcée 17 ans plus tôt, avec cette menace de lui donner 2 gifles. On peut penser que Guy Pourriel a réellement prononcé cette phrase. Ça lui ressemble.
Absolument. Oui. Oui, je pense que c'est la vérité. Et d'ailleurs, les clients du bar ont tous dit que Guy Pourriel avait été autoritaire, qu'il était macho, qu'il était, c'était pas quelqu'un de très agréable dans son relationnel. Et donc, il a très certainement humilié ce gamin qui n'avait que 17 ans à l'époque et qui était obligé de travailler dans le bar de son père parce qu'on le traitait de fignant et de bon à rien.
Et lui dit que ça a affecté le reste de sa vie, donc il impute à cette menace de deux gifles le fait qu'il s'est séparé de sa femme, le fait qu'il a perdu la garde, enfin, la capacité à voir son fils. Il abuse un peu peut-être là-dessus, je veux dire. On a du mal à le suivre jusque-là.
La psychiatrie entre en jeu, c'est extrêmement difficile. Mais la souffrance mentale, c'est difficile à cerner. Et il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'il y avait des problèmes relationnels avec le père et que Guy Pourriel ressemblait au père. Oui. C'est un tout, ce dossier. Un règlement de compte avec le père, c'est un tout.
Est-ce que Zago est vraiment venu demander des excuses à Guy Pourriel ? Elle peut en témoigner, je suppose, sa femme.
Oui, parce que quand vous avez résumé l'affaire, vous avez rappelé qu'à un moment donné, il y avait eu une discussion avec un individu et qu'il était revenu, Guy Pourriel, très choqué. Oui. Il avait été menacé, il avait eu peur, et il voulait même acheter une arme, mais il n'avait pas reconnu, évidemment, 17 ans plus tard, il n'avait pas reconnu le jeune Zago.
Mais c'était Zago ?
Ah, je pense, oui.
Et alors, la position du père d'Éric Zago, Fernand, patron du bar où Guy Pourriel joue au poker, c'est un copain de Fernand Zago, Guy Pourriel, à la base.
Oui, c'était une bonne connaissance. Copain, ils s'appréciaient plus ou moins, parce que c'était deux caractères forts quand même.
Et à la barre, il se souvient de l'incident, il comprend un peu son fils ou pas du tout?
C'est compliqué parce que dans mon souvenir, le père Zago avait beaucoup de mal à supporter la faiblesse de son fils. C'était un homme, c'était un rugbyman, vous l'avez dit, hein, c'était un joueur international, au niveau international. Il supportait mal d'avoir un fils comme Eric. Et il a eu du mal à l'audience de comprendre. Lui, je pense qu'il était complètement ravagé par le mobile, il ne comprenait pas.
Pour terminer, Maître Hélène Blanc, quand je vous entends, je sens une énergie sans limite et je me demande comment vous supportez la retraite.
Ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tant qu'on travaille, on a plein d'idées et quand arrive la retraite, on les met à exécution.
Il n'y a pas de nostalgie de ce métier unique, passionnant, qui est celui d'avocat pénaliste ?
Non, parce que le métier a tellement changé. Et voyez, le côté pénal, les affaires en cour d'assises, c'était le seul moment où on pouvait encore vraiment faire ce qu'on avait envie de faire lorsqu'on était jeune. Aujourd'hui, le métier a complètement changé. C'est de la paperasse, c'est de l'informatique, et on a beaucoup plus. On n'a plus de temps pour étudier, pour avoir de l'empathie pour les gens, pour avoir envie de les défendre. On n'a plus le temps. Et donc, non, je ne regrette pas, je suis très bien comme je suis. J'ai exercé plus de 40 ans, c'était très bien.
Merci infiniment, Maître Hélène Blanc, ex du barreau d'Avignon.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.